Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour.
Docteur en philosophie, enseignant à Sorbonne Université et président du Collège de philosophie. Vous publiez chez Michel Lafon la morale de cette histoire où vous nous guidez avec quelques principes éthique, simple, dans le monde complexe qui est le nôtre, où il est question de religion, de laïcité, de bioéthique, d'environnement, de protection animale, etc. On va y revenir en ce jour de rentrée après l'assassinat de Samuel Paty. Parlez-nous de la formation de référent laïcité que vous venez de lancer à la Sorbonne auprès de responsables de collectivités locales ou d'entreprises. Quel est le but ?
Le but est assez simple, c'est de se dire que nous avons un principe de laïcité, mais qui est assez clair en vérité, qui n'est pas très compliqué à comprendre, mais qui est difficile à appliquer dans les détails, dans les situations, parce qu'on a tendance soit à surréagir, soit à ne pas réagir. Et donc le principe de cette formation est très simple. Il s'agissait de mettre ensemble dans une même formation à vocation professionnelle, à la fois les grands repères de la culture, mais aussi les mises en situation, la gestion de crise. Donc pour avoir des outils très très opérationnels, faire en sorte que les professionnels, aussi bien dans l'entreprise, dans les associations ou dans les services publics, soient armés pour faire face à ces situations toujours très fines, très compliquées.
Par exemple,
si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez quelqu'un, par exemple une livraison, quelqu'un qui refuse de livrer parce que les produits sont peu conformes avec sa religion, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous engagez un débat théologique avec lui ? Ou est-ce que vous dites juste dans l'entreprise, il faut faire son travail.
Ouais.
Voilà. Et si vous considérez que la loi religieuse est plus importante que simplement la mission, ça veut dire que ne travaillez pas. Voilà. Des choses comme ça qui sont vraiment de l'ordre du bon sens en fait, mais nous vivons dans un monde complexe et ce bon sens, nous avons du mal à le raccrocher, à le récupérer.
Avec des notions qui sont souvent confuses ou mélangées. Par exemple, dans votre livre, vous clarifiez la question du blasphème et de la confusion, écrivez-vous, qu'on fait toujours entre offense et préjudice.
Oui, l'offense, c'est l'injure, c'est effectivement le fait de se sentir un peu agacé par les autres, injurié par les autres. La question est de savoir, est-ce que ça produit un préjudice ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut témoigner du fait que nos intérêts soient réellement lésés ?
Oui.
Dans un cas, l'offense, écoutez, il faut l'accepter, parce que le monde, ça nous arrive d'être déçus. En plus, d'arriver à déterminer ce qui nous offense ou pas est extrêmement compliqué. En revanche, le préjudice, c'est très précis. On peut établir le fait que mes intérêts soient lésés. Il y a parfois des offenses qui constituent un préjudice. C'est par exemple la diffamation. Notre réputation est lésée. Mais il y en a d'autres qui sont simplement le fait que les gens ne sont pas d'accord avec vous et vous accusent. Donc il faut vraiment distinguer les choses. Et si on ne les distingue pas, et particulièrement pour le blasphème, qui est une offense à Dieu, donc encore une autre logique, en vérité plutôt une offense à des croyants,
oui.
Mais après tout, j'allais dire, personne n'est contraint de voir les caricatures de Charlie Hebdo, elles avaient vocation à s'adresser à ceux qui sont abonnés au journal, et ceux, d'ailleurs c'est intéressant, qui ont intérêt à les diffuser, pas tellement Charlie Hebdo, même si Charlie Hebdo a envie de vendre son papier, c'est plutôt ceux qui surfent sur l'indignation.
Absolument, voilà. Ce qui a été fait en 2006 au moment de la première publication des caricatures où on sait que des imams danois les ont diffusés, y compris en les accompagnant de faux à travers le monde pour enflammer le monde arabo-musulman en l'occurrence.
Tout à fait.
Et donc il faut remettre les choses dans l'ordre, mais les croyants, on l'entend souvent, se disent « je suis blessé ».
Oui, mais tout à fait. Et d'ailleurs, le principe de laïcité, c'est dans l'espace civil aussi, c'est la discrétion, on dit souvent. Hein. C'est liberté dans l'espace privé, neutralité dans l'espace public, et l'espace civil qui est l'espace où on se rencontre, c'est une discrétion. Discrétion des expressions religieuses, mais aussi discrétion à l'égard des critiques de la religion. La laïcité ne vise absolument pas à effacer les religions, elle vise à lutter contre le prosélytisme. Pourquoi ? Parce que le prosélytisme, ce n'est pas l'expression légitime d'une religion, c'est précisément faire nuisance à autrui. C'est le fait qu'on porte préjudice à l'autre.
La morale, c'est donc votre livre. La morale, c'est un petit côté rigide et désuet. On n'aime pas beaucoup les moralisateurs, ceux qui donnent des leçons de morale. Mais écrivez-vous, le meilleur fondement de la morale, c'est le constat que l'humain ne peut pas s'en passer pour vivre. Expliquez-nous, Pierre-Henri Tavoyot.
C'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu de crise morale. On se dit, aujourd'hui, perdre des valeurs. Enfin, on a toujours l'idée que c'était mieux avant, de ce point de vue-là. Et en même temps, il y a une autre chose qui nous menace, c'est que ma morale est partout. C'est-à-dire qu'on constate la crise morale, mais on ne veut pas de l'ordre moral. Et donc, on est un peu, si je puis dire, le cul entre deux chaises, entre la pénurie et l'excès. Les principes moraux, on va dire, sont assez clairs et assez simples quand on y réfléchit. Il se résume à trois, pour l'essentiel. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse.
Oui, ça c'est le respect. Quoi.
C'est le respect, principe de... Voilà. Ne laisse pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi ou à tes proches. C'est le principe de non-indifférence.
D'attention à l'autre.
L'attention à l'autre, c'est ça. C'est le deuxième principe. Et le troisième principe, qui alors là, c'est pour le top niveau, c'est pour les, voilà, les agrégés de la morale, c'est fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi ou à tes proches.
Oui. Donc, c'est la bienveillance, la générosité.
Encore mieux, la bienfaisance.
Bienfaisance.
Si je puis dire, la bienveillance qui est efficace. Ouais. Voilà. À l'inverse, le mal, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, le salaud, c'est celui qui va se considérer un peu comme une exception. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire le mal, mais enfin, il considère que lui, on peut être à son égard relativement. Voilà, il peut prendre des exceptions. Le médiocre, c'est celui qui est indifférent aux autres. Et puis, le méchant, ça, c'est plus troublant, c'est celui qui prend le mal pour projet. C'est celui qui vraiment se dit ouais, j'ai envie de faire mal. Et bon, il faut bien reconnaître que ça nous arrive à nous tous d'être à la fois salaud, médiocre et méchant. Et on peut l'être plus ou moins.
Et c'est accompagné de ces trois principes que vous revisitez des grandes questions de société, des débats de tous les jours. Avant cela, vous dites qu'en opposition à ces principes-là et à cette idée de morale, vous placez l'éthique de la peur. Au lieu de la morale, c'est la peur qui nous guide trop souvent, Pierre-Henri Tavoyau.
Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a, on recherche des fondements à nos principes, parce qu'effectivement, nous sommes dans le monde moderne, en tout cas, j'allais dire qu'on avait des beaux fondements, on avait la religion, on avait la tradition, on avait peut-être la conception de la nature, qui d'une certaine façon, on déduisait nos principes de ces choses grandioses qui nous tombaient du ciel. Donc, il y a une sorte d'évidence morale. Aujourd'hui, la tradition est contestée, la religion est incertaine, la nature est assez, même si on est très écologique, quand même ambivalente. Et donc, nous sommes confrontés à nous-mêmes. Voilà. Il faut faire comme on dit, sur ressources propres, c'est-à-dire trouver en nous-mêmes des fondements de ces principes. Encore une fois, ces trois principes qui sont clairs, non-nuisance, non-indifférence, bienveillance. Mais d'où, où ont-ils leur valeur? Et face à nous-mêmes, il y a deux solutions. Soit se dire, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, si on ne les a pas, on ne peut pas vivre ensemble. Voilà, c'est tout simple. Je pense que c'est un fondement très solide. Mais parfois, on peut considérer que ça ne suffit pas. Parce que vivre ensemble, il faut avoir en tête ce que ça veut dire. Donc on va dire, non, essayons de les fonder sur la peur. Parce que la peur, c'est un argument d'autorité. Quand vous faites peur, ça clôt les becs, ça ferme les bouches, ça enlève la réflexion. Et on assiste aujourd'hui à la montée de ce que j'appelle effectivement une éthique de la peur, ou une panique morale, ou qui serait une morale de la panique, en disant, voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que c'est, nous sommes confrontés à un monde très complexe, donc essayons de trouver des éléments solides, puisqu'on n'a plus ni Dieu ni la tradition, eh bien, faisons peur. Faisons peur pour permettre effectivement d'agir collectivement. Et on voit dans tous les secteurs de la société, ça fonctionne. Le terrorisme, la santé, l'écologie, les catastrophes écologiques, les rapports hommes-femmes. Voilà, on a une sorte de montée en puissance très forte et à mon avis très effrayante, si je puis dire, de la morale de la peur.
Mais quand le président de la République explique que sa responsabilité est de protéger tous les Français pour décider un nouveau confinement, quel est le principe moral sur lequel il se fonde? L'attention à l'autre ou la peur?
Alors là, on touche la distinction entre la morale et la politique. Puisque là, c'est une action politique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une menace, qui est la menace d'un Covid, et comment faire pour y parer? Alors j'allais dire que le principe ici n'est pas tellement un principe moral, c'est un principe politique. C'est-à-dire qu'on a deux logiques qui s'affrontent. Une logique qui est une logique de prospérité d'une certaine manière, qui peut produire de graves dégâts. Et puis une logique de protection de la santé, et si on n'y fait pas attention, peut produire des graves dégâts. Et donc, la question est ici, non pas morale, mais politique, c'est-à-dire de trouver le bon curseur entre ces deux logiques qui s'affrontent et qu'il faut constamment, au vu de l'évolution de la situation, arbitrer. Donc je serais tendance à dire, évitons sur cette question de mettre un qualificatif moral. Le seul point, c'est un point d'évaluation de la situation politique.
Alors, il y a un chapitre qui est passionnant, qui ouvre beaucoup de portes dans votre livre, c'est autrui. Qui est autrui? Puisque ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fie. Bon, très bien, mais autrui, est-ce que c'est la planète. Est-ce que ce sont des animaux? Et là, on touche à la question de la protection animale. Et donc, vous ouvrez des portes qui sont troublantes. Votre conclusion, pardon, je vais spoiler, hein, votre conclusion, c'est que non, autrui ne peut pas être un animal.
Oui, alors il y a une raison très simple pour laquelle autrui ne peut pas être un animal, c'est que autrui, c'est pas simplement la faculté d'être gentil avec les animaux ou d'être attentif à leur bien-être. Ça, c'est tout à fait légitime.
C'est un combat légitime, oui.
Autrui, c'est quand même celui aussi qui est capable d'être méchant. Alors je sais bien qu'il y a des chiens méchants, mais ça voudrait dire que nous ferions porter sur le dos des animaux tout ce qui arrive dans la communauté des hommes. C'est-à-dire que, par exemple, on est en train de se noyer, il y a un dauphin qui passe par là, s'il ne nous sauve pas, c'est non-assistance à personne en danger. Donc voilà, il faut être très très attentif à faire en sorte que nous avons des impératifs, j'allais dire, c'est une formule classique, nous avons des devoirs envers les animaux, mais les animaux n'ont pas de droit sur le plan juridique. Nous devons être attentifs à leur bien-être, bien sûr, ça c'est tout à fait impératif, mais pour autant, ce ne sont pas des sujets moraux, à mon sens, à part entière. Il y a toute une série d'arguments qui témoignent du vieux débat de la différence entre l'homme et l'animal. Mon critère est parfois parfaitement basique, c'est ce qui distingue l'homme et l'animal, c'est que l'homme se pose la question de la différence entre l'homme et l'animal, et à ce qu'on sache, l'animal assez peu.
J'invite les auditeurs qui nous suivent à vous suivre vous-même dans cette quête, dans ce guide moral. Vous tutoyez le lecteur d'ailleurs d'un bout à l'autre, vous l'accompagnez, vous le prenez par la main, et sur d'autres chapitres, la bioéthique, l'intelligence artificielle, le principe de précaution que vous jugez funeste, Pierre-Henri Tavoyau, la morale de cette histoire chez Michel Lafond. Merci d'être venu nous en parler en direct.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, Christophe Lamarre pour d'autres infos, le 13h, puis la France bouge. Bonne journée.